Et nous prions avant de lire dans les Écritures. Éternel notre Dieu, nous nous ouvrons à ton esprit, afin que les Écritures deviennent pour nous maintenant passage de cette vie que tu nous donnes, et que cette vie mette dans nos cœurs des idées, et puis dans nos bouches des paroles, et dans nos mains des actes qui donnent de la force et de la lumière. Rends-nous attentifs à ce qui est juste et bon en chacun. Et ouvre-nous à cette espérance féconde. Amen. Nous lirons aujourd'hui un texte qui était proposé en fait dimanche dernier dans les listes de lecture pour les églises. Dans un autre évangile, nous lirons dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, les versets 2 à 10. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle qu'il n'est pas de teinturier sur terre qui puisse blanchir ainsi. Élie, avec Moïse, leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car la peur les avait saisis. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée survint une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt ils regardèrent autour d'eux, mais ils ne virent plus personne que Jésus, seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, il leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme se soit relevé d'entre les morts. Ils retinrent cette parole tout en débattant entre eux « Que signifie se relever d'entre les morts ?» C'est un texte saturé d'images, de représentations, de symboles, de liens avec d'autres textes de l'Évangile de Marc, d'autres textes de la Bible. Tellement saturé que c'en est presque trop. Pourtant, Marc est un écrivain plutôt sobre et sa version est la plus courte des trois par rapport à celle de Luc ou de Matthieu dont les évangiles s'appuient sur le sien. Et ce que raconte ce récit est nommé par les éditeurs des Bibles, les peintres, les églises en général, la transfiguration. Avec cette manière particulière de désigner par un mot spécifique certaines scènes bibliques, comme si le vocabulaire ordinaire ne suffisait pas à en restituer l'importance. Vous savez, annonciation plutôt qu'annonce, visitation plutôt que visite, et ici, transfiguration plutôt que métamorphose, qui traduit au plus près le mot grec employé par Marc. Alors ce seul mot de transfiguration suffit pour faire apparaître toutes ces images, même lorsqu'on ne lit pas le texte, la haute montagne, le vêtement resplendissant de blancheur, le visage de Jésus est également extraordinairement resplendissant pour Matthieu et Luc, la nuée, l'apparition de Moïse et d'Élie, et puis la stupéfaction des disciples. À lire ce texte, tant d'autres récits bibliques sont convoqués que leur signification surgissant à l'arrière-plan du récit de Marc, à l'arrière-plan de presque chaque mot, nous donne un récit d'une épaisseur extraordinaire. C'est le 6e jour, après le jour précédent signalé par Marc. Et il s'agit donc d'un 7e jour, le 6e après le 1er. Et le septième jour, c'est un jour d'accomplissement. C'est un jour de plénitude, un jour pour dire la qualité de la création portée dans ce septième jour à son plus bel éclat. Alors il nous faut bien aller voir le premier jour quand même, celui auquel Marc réfère ce septième jour. Et c'est au chapitre précédent que ce jour est signalé, un jour où Jésus demande à ses disciples « Qui suis-je pour les gens et pour vous ?» Qui suis-je ? Et lorsque Pierre répond « Tu es le Christ », Jésus intime à ses disciples de se taire, avant de leur annoncer qu'il va être tué et que 3 jours après, il le relèvera des morts, sur quoi Pierre rabroue Jésus. Et Jésus le traite alors de Satan, qui ne pense pas comme Dieu, mais comme les humains. Et enfin, Jésus enseigne à la foule au sujet de ce que signifie « le suivre lui ». Prendre sa croix, perdre son âme, avant d'affirmer que certains parmi eux verront le règne de Dieu venir en puissance. Quelle journée ! Qui est Jésus ? Et qui est celui ou celle qui dit « Qui est Jésus ?» Voilà une des trames principales de l'évangile de Marc. Mais pour en revenir à notre texte, dit de la transfiguration. Marc, vous l'avez entendu, multiplie les évocations autour de la figure de Moïse. Et donc vient tout de suite l'exode, la libération de l'esclavage et le don de la loi. Non seulement avec Moïse qui apparaît, mais aussi avec la mention de la haute montagne. Il n'y a pas vraiment de très haute montagne dans là où se passe la scène. Mais la haute montagne, elle rappelle aussi celle sur laquelle Moïse reçut les tables de la loi. Et puis avec la nuée, c'est la nuée qui conduisit le peuple dans le désert, la nuée qui enveloppe les théophanies, c'est-à-dire les apparitions de Dieu, les manifestations de Dieu plutôt dans le livre de l'Exode et dans la Bible hébraïque. Ainsi donc avec Moïse, c'est à la fois la marche vers la liberté, une marche dans le désert pour devenir un peuple libéré, cette aventure d'humanité à laquelle nous sommes tous appelés, qui vient là au fondement, dans le fondement du récit de Marc. Et la loi vient pour constituer un ensemble, une communauté en orientant les relations avec Dieu et les uns avec les autres, dans la perspective de la reconnaissance mutuelle et du respect. Élie est aussi présent. Élie, c'est le prophète qui n'est pas mort. Il a été enlevé au ciel dans un char de feu. Mais c'est aussi le prophète qui ne cesse de pourfendre l'infidélité à l'Alliance et par là même de rappeler l'Alliance. C'est le prophète qui ne craint pas les étrangers, qui va sauver de la famille une veuve dans la ville de Sarepta. C'est le prophète aussi qui passe de la compréhension d'un Dieu puissant en force à la compréhension d'un Dieu qui vient dans l'infime murmure d'une brise légère. Ensuite, il y a la blancheur rayonnante du vêtement de Jésus qui évoque le vêtement des anges. Et donc, avec cette intertextualité qui tisse les livres bibliques, Marc rappelle que Jésus a surmonté la tentation du Satan dans le désert où il était servi par des anges. Et Marc donne également à voir à l'avance le ressuscité du matin de Pâques, puisque c'est un jeune homme aux vêtements blancs qui annonce aux femmes que Jésus le crucifié n'est plus dans le tombeau, n'est plus dans la mort, car il a été réveillé, ressuscité. C'est comme si le transfiguré était déjà en avance le ressuscité. Et puis il y a également la voix dans la nuée, semblable à la voix qui parlait déjà à Moïse, semblable également à la voix qui a déclaré lors du baptême de Jésus « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je prends plaisir ». Et ce que dit cette voix trouve un écho dans la parole du centurion au pied de la croix. Le centurion qui déclare « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ». Et puis toute cette grande scène où tant est donné à voir dans les descriptions et à l'arrière-plan de ce qui est écrit, toute cette grande scène tellement visuelle converge vers un seul verbe prononcé par la voix venant de la nuée. Écoutez-le. Tant à voir pour rien avoir. Écoutez-le. Ce n'est pas le verbe de la vue. Mais ce verbe n'est pas sans rappeler l'exhortation du livre du Deutéronome. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le Dieu un. Celui qui est transfiguré, métamorphosé sur la montagne, est porteur de la divine parole, non sur des tables de pierre, mais dans ses paroles, ses actes, son être, sa vie. C'est comme si, alors, la transfiguration donnait à voir la nouvelle alliance, celle qui est gravée non pas sur la pierre, mais dans le cœur. Et avec ce tissage de figures, de symboles, d'intertextualité qui donne au récit cette formidable densité, Marc cherche à rendre compte de quelque chose de neuf, d'une nouveauté. Il est allé puiser dans un fond ancien, celui des Écritures hébraïques, de quoi exprimer ce qui est neuf, ce Jésus. C'est le Christ, le Fils de Dieu. Comme une divine attestation dans ce récit, qui n'est pourtant pas une preuve, ce texte. Ce n'est pas une preuve pour les lecteurs de l'Évangile. Ce récit n'est pas une preuve, mais il porte en lui une invitation, une interpellation et une exhortation. L'invitation, c'est pour nous de faire comme Marc, de reprendre ce geste d'aller chercher dans des ressources déjà disponibles de quoi dire, de quoi parler de ce qui fait vivre et dont il est pourtant tellement difficile de parler. Difficile de parler des expériences intimes de foi, de spiritualité, d'intériorité. On ne sait pas toujours trouver les bons mots pour dire cela, les mots justes, les mots exacts. Et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas possible. Peut-être qu'il n'y a que des images. C'est difficile de parler d'une vérité qu'on ne peut pas s'approprier, qu'on ne peut pas prendre en main, qu'on ne peut pas lire noir sur blanc en deux phrases. C'est difficile de parler d'une trace imprimée en soi et pourtant insaisissable. Difficile de parler de ce Dieu dont nous ne connaissons même pas le nom. Marc nous désigne les textes bibliques comme ressources abondantes, puisqu'il y est question des humains dans leur complexité, dans leur diversité, leurs émotions à mettre en mots pour ne pas en être le jouet, dans leurs aspirations, dans leurs inspirations, puisqu'il y est question des humains dans leur quête, dans leur relation avec le Dieu qui libère et donne la vie vivante. Alors certes, nous disposons aussi d'autres langages pour dire, pour évoquer, pour dessiner, pour protester pour ce qui nous fait vivre, d'autres langages artistiques, philosophiques et même scientifiques, et les langages d'autres traditions religieuses même. Dans tout cela, nous pouvons puiser, puisque ces ressources de langage, d'images, de symboles sont disponibles. Et ce geste de puiser, particulièrement dans les Écritures, c'est profondément un geste de la foi, de l'intelligence de la foi. Un geste permettant d'animer de reprises en écart des différences, une diversité vivifiante, une nouveauté toujours nouvelle, même si finalement beaucoup la partagent. Il y a là une dynamique issue de ces ressources, une dynamique contre l'isolement, contre la désolation, contre la cessation de l'espérance et de la confiance. Mais cette dynamique n'a rien à voir avec la défense de valeurs, même vénérables, même celles qu'on voudrait inaltérables. Ensuite, ce texte porte une interpellation. Comment allons-nous ensemble répondre à la question de Jésus, la question du premier jour ? Qui dites-vous que je suis ? À laquelle Marc donne une réponse avec ce récit. L'épaisseur du récit de la transfiguration de Moïse à Élie, à Jésus et aux disciples ne se mesure pas tant en siècles qu'en élaboration, en essai, en fidélité et en trahison, en rupture et en retour, en don et en pardon. Tout cela rassemblé par le récit que Marc inscrit dans un temps qui est finalement un pas de côté hors de la chronologie du temps. Une manière d'affirmer que ce qui est donné à voir là, de ce qui est attesté là, ce qui est à comprendre sur cette montagne, n'est pas dépendant des chronologies, des causes et des conséquences, des nécessités, et qu'il est possible de le tenir même lorsque vient le temps de l'épreuve. La transfiguration donne à voir ce qui n'est pas visible, pour que les disciples ne s'en tiennent pas seulement à ce qu'ils voient, même lorsque ce qu'ils verront sera une croix. Et cela aussi, ce n'est pas facile. La libération, le don de la loi comme chemin commun, la promesse, l'amour, la grâce ne disparaissent pas dans les malheurs, car nous ne sommes pas destinés au malheur, même lorsque le malheur vient. Et il y a une trace de cela en nous. Une trace, un murmure, un souffle, un éclat, c'est ce qui nous conduit au temple, au culte, en prière, en chant, en lecture des Écritures, en méditation, à chercher, à ramasser, à cueillir des mots, des symboles, des expressions qui aideront à le comprendre et à formuler une réponse et à comprendre les réponses des autres à la question du premier jour, parce que ce sont des réponses toujours singulières. Qui dites-vous que je suis ? La réponse n'est pas celle d'un catéchisme, d'un dogme, d'une doctrine. La réponse est celle d'une personne qui réfléchit sur sa propre expérience spirituelle, sur son propre chemin de vie. Et comment le Christ a accompli la libération, la grâce, la promesse dans sa propre existence à elle. Et comment le Christ éclaire son regard, son être, les autres et le monde et la manière de vivre ensemble dans le monde. Et enfin, ce récit porte une exhortation. La transfiguration ne dure pas. Elle est révélation dans un instant qui ne se retient pas, même pas avec toute la bonne volonté de Pierre, qui veut dresser trois tentes pour Jésus, Élie et Moïse. Et l'accomplissement donné dans cet instant-là, eh bien, ce n'est pas non plus la fin. Pierre essaie autant de saisir l'instant que de se ressaisir lui-même. Vous savez, quand on ne sait pas quoi faire, on fait quelque chose. Parce que Pierre est saisi lui-même par la peur, et les deux autres disciples aussi. Ne sont-ils pas en train de voir un prophète mort, un prophète qui n'est jamais mort, et Jésus comme ils ne l'ont jamais vu, enveloppé de cette blancheur divine, puisqu'elle n'est pas d'humain, enveloppé de la gloire divine, lui qui vient d'annoncer qu'il allait être mis à mort. L'écart est effrayant. Mais lorsque la voix se fait entendre, la vision disparaît et les disciples qui regardent ne voient plus que Jésus seul. Alors il ne reste qu'à descendre de la montagne, car vivre c'est en bas. Il aurait été bien tentant de s'installer dans la vision, de rester ainsi auprès du Fils bien-aimé en gloire. Il peut être encore bien tentant de se tenir, de rester bien à l'écart, à l'abri des malheurs, loin de la réalité quotidienne et de ses épreuves. bien tentant de faire de la foi et de la religion un à part du monde, un à part où il n'y aurait pas de croix, pas de mort, pas de doute, pas de question. Mais il s'agit de redescendre. Jésus a repoussé au début de l'Évangile la tentation du Satan. Il a repoussé au premier jour de cette semaine la tentation de Pierre qui voulait que le Christ se détourne de la mort. Toute tentation agitant la toute-puissance, le pouvoir et la gloire indiscutable. Jésus n'a pas conduit ses disciples sur la montagne pour les retirer du monde. Il ne conduit pas personne à l'écart de ce qui agite, mobilise, effraie ou réjouit les humains. Et la gloire divine, celle qu'on a peine à regarder, attendra. Cette gloire éclatante devant laquelle les disciples ont eu peur, ou plutôt, elle prendra un autre aspect, cette gloire. Car si le vêtement de Jésus ne rayonne plus d'une divine blancheur, en bas de la montagne, il va retrouver enfants, hommes, femmes, à libérer de leurs oppressions, à restaurer dans leur dignité, à relever dans leur existence, et c'est ainsi que sa gloire se manifestera en bas, dans le monde des vivants. Ainsi que l'écrivit il y a fort longtemps Irénée de Lyon, « La gloire de Dieu, c'est l'homme debout ou l'homme vivant. » Alors oui, il s'agit de redescendre de la montagne, et que les disciples suivent aussi ce chemin de renoncement à la force, au pouvoir, à la toute-puissance. Ce chemin qui les mènera non seulement en bas de la montagne, mais jusqu'au Golgotha, et ce ne sera même pas le bout du chemin. Parce que c'est un chemin de service d'autrui, un chemin de septième jour, un chemin d'accomplissement. Amen.